France Culture.
Bienvenue dans la suite des Midi Culture. À 13h, je recevrai Pascal Quignard pour son roman Trésor caché qui sort aujourd'hui chez Albin Michel. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture avec vous, Sophie Catherine Gallet. Quelles sont les nouvelles du jour?
Bonjour Marie. Séries, podcasts, multiples services de streaming, les supports de consommation de la culture sont de plus en plus divers. Et après les festivités du Nouvel An, nous avons certainement été nombreux à regarder plusieurs épisodes d'affilée d'une série. Un point sur les enjeux autour de notre consommation de la culture aujourd'hui. C'est notre dossier du jour. Jean-Miguel Pierre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, sociologue, professeur à l'École pratique des hautes études et auteur de L'Otium du peuple à la reconquête du temps libre. Depuis quelques semaines et comme chaque année, les tops classant tout ce qu'il fallait avoir vu, écouté, lu durant l'année 2024 sont absolument partout. Le Monde publiait aussi récemment une enquête sur la charge mentale que pouvait représenter l'offre culturelle, notamment de séries qui semblent en effet infinies. Alors ça peut sembler paradoxal quand l'accès à des lieux de culture reste dans certains territoires assez compliqué, mais est-ce que nous faisons face malgré tout à un trop plein de propositions culturelles?
Alors, peut-être pas un trop-plein, mais nous avons le sentiment d'être submergés parce que notre rapport à la culture est aujourd'hui dominé par le logiciel, entre guillemets, du divertissement. C'est-à-dire qu'il faut absolument multiplier les expériences culturelles et avoir un rapport peut-être un peu superficiel, passer d'un à l'autre. Et finalement, nous n'avons jamais la possibilité de nous poser vraiment, de nous arrêter sur un rapport à une œuvre, sur une expérience, et pour l'approfondir. Et je pense que c'est ça qui crée cette frustration. Et rien dans notre société, dans nos valeurs finalement, en tout cas celles qui sont imposées par la société de consommation, nous incite à avoir une autre attitude avec nos expériences culturelles.
On parlait de séries, alors on le sait aussi, notre époque est aussi l'époque de l'addiction aux écrans. Ce qui se déroule justement sur nos écrans est forcément du temps mal investi, forcément du divertissement selon vous?
Pas du tout. Les écrans sont une source extraordinaire d'enseignement, de connaissances, de réflexion. C'est simplement, c'est l'usage qu'on en a. Et il se trouve qu'aujourd'hui, une industrie du divertissement, et notamment sur les réseaux et les réseaux sociaux, s'est développée sur le principe de la captation de notre attention. On connaît tous ces phénomènes de scrolling, même si on est très informé.
Alors, scrolling, il faudrait juste dire...
Oui, c'est le fait de défiler sur l'écran de notre téléphone des quantités de contenu sans jamais vraiment s'arrêter. Et on a tous fait cette expérience, on commence, et puis en fait, on le fait pendant des minutes, quelquefois des heures, et on l'a fait un peu en dépit de notre plein gré, parce qu'en fait, ces contenus sont conçus pour nous rendre vraiment addictifs, comme des psychotropes. Ils sont conçus pour finalement inhiber notre libre arbitre, et au bout de ces longues séances de scrolling, nous avons un sentiment de n'avoir littéralement rien fait, parce que rien ne s'est vraiment imprimé dans notre conscience. Et on n'a eu aucun usage finalement fécond de ce temps de loisir qu'on aurait pu utiliser sur nos écrans à apprendre des choses, à intensifier un peu notre relation au réel.
Donc vous avez beaucoup travaillé et remis au goût du jour aussi une notion qui en latin s'appelle l'otium et en grec scolé. C'est un mot qu'on a oublié, qui n'existe plus vraiment dans notre imaginaire collectif, mais comment l'otium justement se différencie de cette pratique que nous avons aujourd'hui assez globalement de la consommation donc culturelle?
Mais le slum, effectivement, est absolument le contraire de cette approche captive de notre conscience, puisqu'il est littéralement, il définit le loisir intelligent. Donc, c'est l'usage d'une part de son temps libre pour apprendre des choses, pour développer une relation complexe au réel, à soi-même. Il se trouve que cet otium, il qualifiait un rapport à la connaissance qui était extrêmement valorisé dans l'Antiquité. L'otium, c'était vraiment le sommet des activités pour ceux qui le pouvaient, évidemment. Mais ça a quand même donné la philosophie, la démocratie. C'est une chose très importante dans l'histoire de la pensée. Et c'est une chose qui pourrait être revalorisée aujourd'hui parce que, au fond, l'otium, comme concept, a disparu dans notre paysage mental, mais il est comme un passager clandestin. Il y a un mot qui finalement nous rappelle l'otium, qui est le négos. Mmh. Et négos, c'est formé des deux mots, nec, otium, la négation de l'otium. Donc l'autre nom du marché est fondée sur la négation de cet osium. Et quand on songe qu'effectivement le marché de l'attention domine notre rapport à nos loisirs, est fondé sur cette captation de notre capacité de réfléchir, on comprend que, eh bien, aborder, développer un autre type de rapport à la connaissance n'est pas du luxe. N'est pas facultatif, mais il est vraiment lié à notre autonomie, au fait de notre capacité de réfléchir librement, de façon désintéressée, et au fond peut-être d'être des citoyens.
Et en fait, j'aurais presque tendance à penser, est-ce que avec l'osium, il faudrait finalement, il y aurait cette tentative d'aller vers un réapprentissage de l'ennui, de savoir s'ennuyer finalement?
Ben, je pense que c'est une capacité qui est vraiment inscrite au cœur de l'osium, cette idée que d'abord il faut être désintéressé par rapport à son activité, ne pas être dans un calcul, pas se dire on va atteindre un objectif précis, c'est-à-dire aborder les choses avec curiosité. Donc effectivement, ne pas hésiter à s'aventurer dans une œuvre ou une expérience esthétique dont on voit pas forcément l'objectif, qui peut-être nous ennuyer un peu, mais qui finalement va progressivement nous éveiller à autre chose, de nous permettre de développer d'autres territoires. Paul Valéry, le philosophe, disait en 1932, nous ne savons plus féconder l'ennui. Et je trouve que c'est une extraordinaire formule, féconder l'ennui, c'est peut-être le cœur de cet osium qu'il faudrait redécouvrir.
À l'instant, vous nous parliez aussi de la question d'être citoyen, donc vous tracez justement dans vos travaux aussi un parallèle entre cette nouvelle manière d'absorber certaines propositions culturelles et le besoin d'osium de notre société avec l'état de notre démocratie. Alors comment la capacité à reprendre contrôle sur notre temps libre vient-elle coïncider, selon vous, avec l'être citoyen ?
Ben, je pense qu'effectivement, on néglige l'extraordinaire fécondité qu'a notre temps libre pour nous permettre d'acquérir des connaissances, pour nous permettre d'acquérir des savoirs, des réflexions, des échanges, des conversations, pour justement être un meilleur citoyen, pour avoir un rapport plus complexe au monde, pour mettre à distance notre tendance qui est de plutôt mobiliser nos émotions quand on est face à une situation, et plutôt développer notre capacité de réfléchir, de nous informer, et surtout aussi d'échanger avec autrui dans une patience de ce qu'il a à nous dire. Et c'est peut-être ça que nous permettrait l'osium, c'est de nous réapproprier les outils d'être vraiment citoyen. C'est pour ça que c'est important de se dire, on réfléchit à partir de la question du divertissement, du loisir, du temps libre, ça a l'air finalement assez léger, mais en fait, et c'est une des vertus de la question de l'osium, c'est de nous faire comprendre que ce rapport au temps libre, au fond, il est absolument décisif pour notre capacité à réfléchir librement, hors des addictions, et pour être un bon citoyen, pour contribuer à la réflexion sur le bien commun. Donc, c'est une chose qui n'est pas facultative, qui est vraiment décisive, et aujourd'hui, le marché n'a pas intérêt, finalement, à ce que nous développions cette pensée, puisqu'il, son intérêt, c'est de capter un maximum de temps de cerveau disponible, comme disait le patron de TF1, pour le revendre aux annonceurs. Donc, on est très loin de l'ambition démocratique.
Et pour finir, quel conseil vous donneriez à tous ceux qui, aujourd'hui, peut-être après les festivités du Nouvel An, justement, auraient peut-être la tentation d'aller dévorer la dernière série dont tout le monde parle?
Mais je dirais plutôt favoriser des expériences où on va s'installer dans une sorte de lenteur, dans un silence, dans une profondeur. Bon, les séries peuvent être le cas, mais on sait très bien que les séries sont conçues précisément pour être addictives. C'est un peu la version télévisée de ce qu'on voit sur nos écrans de téléphone. Donc, moi, je conseillerais plutôt où prendre un livre ou faire une balade en forêt avec quelques amis et engager une discussion profonde où on écoute et où on n'est pas dans les émotions. Alors je pense que c'est une bonne façon de commencer à s'approprier ce que peut être l'osium.
Merci beaucoup Jean-Miguel Pierre.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité, un personnage bien connu tombe cette année dans le domaine public américain.
Tout à fait. L'image de Tintin pourra, sous certaines conditions, être copiée, partagée, reproduite ou adaptée aux États-Unis sans qu'un centime soit versé aux ayants droit. Alors, il ne faut pas s'attendre pour autant à voir de grosses productions s'en emparer pour une diffusion mondiale. Il faudra attendre que Tintin tombe dans le domaine public belge, soit 70 ans après la mort de Hergé en 2034, pour que le maître de Milou puisse être reproduit sans contrainte en Europe.
La cassave amérindienne est un luth d'Asie centrale classé par l'UNESCO.
Début décembre, l'organisation classait la cassave, cette galette sans levain d'origine précolombienne élaborée à partir de farine de manioc, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En parallèle, l'UNESCO a aussi classé dans cette liste le rhubarbe, lutte traditionnelle d'Asie centrale, pour en prévenir l'oubli. Sa fabrication et sa pratique sont en effet menacées par le régime des talibans qui interdisent désormais son usage en Afghanistan.
Et pour finir, Sophie Catherine, Editis fait officiellement l'acquisition de Delcourt.
La maison d'édition de bande dessinée est désormais chapeautée par le numéro 2 de l'édition en France. Ce rapprochement, qui avait été validé par l'autorité de la concurrence en décembre, porte les parts de marché d'Editis dans la BD à 15%.
Merci Sophie Catherine, on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles.